Biotine, l'émission de vulgarisation scientifique de Graphite.
Bonjour à tous et bienvenue sur l'antenne de Graphite. Vous écoutez tous les samedis. Quelle chance vous avez de nous écouter sur Radio Graphite, à la fois sur le 94.9 pour ceux qui nous écoutent sur la bande FM et graphite.net pour ceux qui nous écoutent sur Internet. Si vous êtes fidèle de cette émission, vous savez que je m'appelle Jean-Noël. Et si vous êtes fidèle de cette émission, vous savez que traditionnellement, pendant une heure, nous feuilletons un petit peu la revue de presse de l'actualité scientifique. Il y avait pas mal de choses la semaine dernière. Je n'ai pas eu le temps d'évoquer tous les articles que j'avais prévus, mais j'en parlerai la semaine prochaine. Et je vous avais promis, parce que l'émission de la semaine dernière était quand même assez plombante, il arrive parfois que les émissions ne sont pas toujours réjouissantes, mais ça c'est l'actualité scientifique qui fait qu'on avait parlé de la méningite, on avait parlé du cadmium, enfin on s'était plutôt mis dans une ambiance un peu mortifère, et je vous avais promis que la semaine prochaine je vous ferai une émission spéciale chaton, parce qu'il y a plein de choses de scientifiques au niveau des chats. Il y a des équipes de recherche du monde entier qui travaillent sur les chats, et je ne sais pas pourquoi, c'est la mode en ce moment. Dans les revues de vulgarisation scientifique qui parlent de chats, on verra ça la semaine prochaine. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, on va avoir une émission un peu particulière, On retourne un petit peu aux sources de biotine. À la base, cette émission biotine, c'était de prendre du temps, de se poser tranquillement et de discuter. Moi, je suis un grand bavard, et de discuter avec des scientifiques au sens large. Et donc, on invitait assez régulièrement des ingénieurs, des enseignants-chercheurs, des industriels, des doctorants, et des doctorantes également. Donc on avait une discussion assez régulière, assez fréquente, dans l'idée de savoir mais pourquoi ils font ça en fait ? Mais pourquoi faire de la science ? Quel est le point de départ ? Quel est le déclic ? Quels sont les parcours ? Quelles sont les finalités, les objectifs ? Comment on travaille ? J'aimais bien ce genre de discussion. Alors on le fait assez régulièrement dans cette émission, notamment grâce à la Fête de la Science, qui nous permet d'échanger avec différents enseignants-chercheurs. Mais c'est une émission qui passe très vite et on n'a pas nécessairement le temps de se poser. Là, c'est pas le cas. On va prendre notre temps tranquillement pendant une petite heure, ce samedi à 12h. Nous sommes d'ailleurs le 4 avril et nous allons discuter avec Soroche Samy. Bonjour Soroche.
Bonjour Jean-Noël.
Merci d'avoir accepté l'invitation et de se dire, tiens, je vais aussi prendre une heure pour parler de moi. C'est quand même pas mal.
C'est avec grand plaisir.
C'est un privilège. On n'a jamais nécessairement le temps comme ça de se poser et d'expliquer un petit peu ce que l'on fait. Ce qui permet aussi de faire le point sur soi-même parfois, de se dire où est-ce que j'en suis, pourquoi j'en suis là. Quand on est doctorant, il y a souvent un moment, comme on le dit très souvent, la tête dans le guidon, c'est-à-dire la tête dans un sujet scientifique, et on n'a pas nécessairement le temps, le recul nécessaire de faire un petit peu le point sur un parcours. Là, je ne dis pas qu'on va être dans une émission de psychanalyse, ce n'est pas le sujet, mais l'idée, c'est à la fois d'expliquer un petit peu ce parcours et pour nos auditrices, nos auditeurs, d'essayer... Alors, selon les publics, pour les plus jeunes, c'est aussi de leur de susciter un petit peu des vocations pour les filières scientifiques et de se dire... Tiens, ce qu'il fait, ça m'intéresse, pourquoi pas moi ? Pour les personnes qui habitent Compiègne, la région de Compiègne, ou même n'importe où on nous entend, c'est de se dire, mais qu'est-ce qui se passe dans les laboratoires de recherche ? D'autant plus quand on est à un laboratoire de recherche public, il y a aussi une impératif de pouvoir expliquer ce qu'il se fait, quel est l'intérêt, est-ce qu'il y a un impact sur notre quotidien ou pas ? Quelles décisions on peut prendre ? C'est aussi l'intérêt de pouvoir échanger avec ces représentants de la communauté scientifique, comme on le dit. Donc c'est un petit peu le but aussi de cette émission, de pouvoir échanger pendant une petite heure. Soroche, quand je lis sur le CV, doctorant en bioprocédés,
tout à fait.
Avant de commencer par comprendre un petit peu ton parcours, bioprocédés, en deux mots, c'est quoi ?
C'est les procédés qui utilisent les vecteurs biologiques, bactéries, champignons, cellules humaines, pour atteindre leur objectif. Donc quand on parle procédés, on parle d'une transformation, mais qui est gérée d'un degré industriel avec une précision industrielle. Souvent, quand on parle des bioprocédés environnementaux, on parle par exemple d'élimination des déchets qu'on peut retrouver par exemple dans les bouts de stations d'épuration. On peut retrouver les bioprocédés dans les entreprises pharmaceutiques pour fabriquer les biomédicaments, les vaccins. Donc les cas d'application sont extrêmement nombreux, mais entomaux, procédés, mais biologiques.
Je pose cette question parce que ce sont des termes, j'allais dire, assez récents. Il y a quelques années, le terme de bioprocédé n'existait pas, ça s'appelait autrement. Et on voit très bien que voilà, il y a des sujets de recherche qui sont de plus en plus nombreux. On va comprendre tout à l'heure un petit peu ce qui se cache derrière cette notion de bioprocédé. La question que l'on peut se poser, déjà j'ai pas dit doctorant à l'UTC, à l'Université de Technologie de Compiègne, pour se dire, tiens, je suis, enfin ceux qui nous écoutent, il est doctorant en bioprocédé, mais pourquoi il s'impose cela? Quel est le point de départ? Quel âge as-tu aujourd'hui
d'ailleurs? J'ai 26 ans.
Quand est-ce que tu t'es dit, et pourquoi, à quel moment tu t'es dit, tiens, je ferais bien un peu de science, ça a l'air d'être sympa? Est-ce qu'il y a eu un déclic particulier? Ouais. Est-ce que tu es un scientifique par défaut, par exemple? Moi, c'était mon cas. Hein. J'aurais voulu être littéraire, mais j'avais des bonnes notes en sciences, donc on m'a mis dans les cases scientifiques. Toi, quel était le point de départ?
Il faut bien remonter dans le temps. Je pense que c'était il y a 10-12 ans, quand j'avais décidé de m'orienter vers les sciences. J'étais encore au lycée. Il faut savoir, je viens de l'Iran. Je viens d'une ville qui s'appelle Yazd. C'est une petite ville, enfin c'est pas une petite ville, entre Lyon et Marseille on va dire en termes de,
ah oui,
de
grande ville quand même.
Ouais, une grande ville, on peut dire ça comme ça. Donc j'étais au lycée, j'avais une certaine curiosité scientifique, on peut dire, même avant, quand j'étais au collège, je lisais les journaux de vulgarisation scientifique qu'on avait. Il y en a un qui s'appelle Dans les chemins, c'est comme Science et vie qu'on a en France. Donc, équivalent quatrième, j'avais 14-15 ans, j'avais un prof de biologie, M. Barobody. Il était très dynamique, ses cours étaient vraiment différents par rapport à ce qu'on trouvait chez d'autres profs. Donc, il nous imposait plus de faire la recherche et des présentations sur les sujets de recherche que d'apprendre par cœur, on va dire, des notions de, je sais pas, de cycle cellulaire, de nom de plantes, etc. Et là, j'ai découvert que j'avais une certaine appétence pour la biologie et plus spécifiquement pour les neurosciences. J'étais vraiment amoureux de neurosciences. J'étudiais tout ce que je pouvais là-dessus. J'avais même commencé à lire les articles scientifiques. Bien évidemment, je m'en sortais pas très bien avec. Mais en gros, l'été après cette année, j'ai eu la chance de pouvoir aller à Téhéran, donc la capitale, pour une journée scientifique. Il y a un lycée qui organise des journées où des alumni reviennent et présentent en fait leur sujet de recherche. Cette présentation, c'était sur les neurosciences computationnelles. Donc, comment est-ce qu'on peut, en gros, calculer un peu ce qui va faire le cerveau avec les datas qu'on peut acquérir avec les machines dont on dispose. J'ai rencontré une personne, Hossein Lafipoul. Maintenant, il est docteur en neurosciences de Oxford. Et j'ai découvert un concours qui s'appelle Concours en neurosciences cognitives pour les lycéens. Je pense qu'il est encore d'actualité, qu'il y a encore ce concours en Iran. Donc équivalent troisième, je participe à cette compétition. Je forme une équipe. C'est une compétition sur un an. Donc il y a plusieurs ateliers à suivre sur les sujets différents dans le domaine des neurosciences, donc neurophysiologie, psychophysique, aussi un peu de codage pour pouvoir interpréter les résultats.
En étant encadré, accompagné par les
scientifiques ? Bien sûr, bien sûr. Justement par les étudiants comme Hossein Lafipoul, qui est maintenant chercheur, mais des étudiants qui s'intéressaient à transmettre ces connaissances aux élèves. Donc, on faisait des allers-retours entre Yazd et Téhéran, où il y avait où j'habitais, où il y avait les ateliers. Et après, c'est temps de, on va dire, d'apprentissage et un peu de recherche, on a pu monter un mini projet de recherche. J'ai pu me familiariser justement un peu plus avec les articles scientifiques, avec la manière dont il fallait mener les recherches et il fallait interpréter les résultats. Pour répondre à une question, la question qu'on s'était posée, c'était un effet. Ça s'appelle Kiki Booba. C'est des formes que les gens ont une certaine tendance à nommer d'une certaine manière. Il y en a une qui est un peu plus aiguë, l'autre qui est un peu plus arrondie. Si on demande aux gens lequel est Kiki, lequel est Booba, on va dire 95% de la planète non, celui qui est un peu plus arrondi, Booba, et l'autre Kiki. Et donc nous, on avait monté un projet là-dessus pour enfin pour essayer de répondre à cette petite question. Donc c'est de là où c'est parti pour moi, où je me suis dit, je veux travailler dans les sciences.
Ce qui est intéressant dans ce que tu expliques, c'est que moi, ça fait plusieurs années que je fais cette émission et j'ai toujours l'impression que je rabâche les mêmes choses. Mais c'est, tu évoques le point de départ, enfin le point de départ, déjà une curiosité personnelle avec justement la lecture de revues de vulgarisation scientifique. Alors moi, c'est très souvent, j'évoque ces vulgarisations, sciences et vie, sciences et avenir, qui abordent tous les sujets d'une façon assez efficace. C'est un prof avec une pédagogie originale qui met totalement adapté quand on parle de science. Ben, à un moment, il va falloir qu'on comprenne qu'on ne peut pas parler de science rigide, totalement fixe. Non, non, la science, enfin, la notion de démarche expérimentale est importante. Donc là, tu coches les cases, entre guillemets, dans le sens où ton parcours a rencontré les bons éléments, en fait. Et ensuite, je découvre donc ce concours, enfin cette idée de faire un projet sur un temps assez long, encadré par des étudiants qui, eux aussi, ont cette volonté de transmettre des connaissances. J'allais dire, effectivement, comment à la fin, tu ne peux pas aimer de poursuivre.
Bien sûr.
Mais c'est à la fois une chance, mais ça part aussi au départ d'une volonté et d'une curiosité personnelle. Tes camarades, à l'époque, ils se sont dit, mais qu'est-ce qu'il fait? Il perd son temps. Qu'est-ce qu'il... Ça fait un peu le personnage un peu particulier de la classe, non? Je ne sais pas. Enfin, c'est...
Tu caricatures vraiment pas, c'était le cas. C'était un peu le personnage un peu à part dans mon lycée. Mais j'avais la chance de pouvoir trouver trois autres personnes qui étaient intéressées par ces questions et par ce concours. Donc on a pu quand même faire ça ensemble. C'est quand même important d'avoir des gens avec qui on peut discuter, des gens qui s'intéressent à des choses similaires mais différentes. J'avais un collègue, par exemple, qui aimait plus la partie électronique, donc préparer des appareils en fabriquer avec ce qu'on pouvait trouver pour justement pouvoir enregistrer. Il faut savoir que dans cette compétition, nous, on a commencé à travailler avec les insectes, donc enregistrer les signaux qu'on peut acquérir avec des petites machines sur la jambe de cafards. C'est quand même spécial de faire ça, donc j'aime pas les insectes, j'ai vraiment peur des insectes, donc j'avais un collègue qui, pour le coup, aimait bien et qui s'occupait de cette partie. Moi, j'étais plus sur la partie psychophysique, justement, ce phénomène qu'on avait choisi comme sujet d'étude pour notre compétition. C'est quelque chose que j'avais vu dans une présentation de vulgarisation, encore une fois. Je pense que c'était un TED Talk. Et c'est de là où c'est parti pour nous de choisir un sujet qui sortait un peu du cadre électrophysiologique de cafards, qui était quand même un peu particulier.
Effectivement. Ce qui est intéressant, c'est cette notion d'équipe aussi. C'est assez malin de la part de ce concours de favoriser la notion d'équipe.
Tout à fait.
C'est ça au niveau de la science, c'est-à-dire qu'on additionne les compétences et j'allais dire derrière aussi un peu les passions de chacun ou les appétences de chacun. C'était tout l'intérêt. Ça, le résultat du concours, c'est quoi? Ça aboutit à quoi? Qu'est-ce qu'on gagne, entre guillemets?
Je pense qu'il n'y avait pas de... Il n'y avait rien de matériel à la suite, mais on était classés en termes des présentations qu'on faisait sur le concours. Il y avait un jury, on était classés. Mon équipe, on a gagné la deuxième place et on a continué à travailler avec ces étudiants et les professeurs qui les encadraient, eux. Ce qui m'a permis de continuer de rester dans cette démarche scientifique et d'avoir un encadrement de la part des professeurs iraniens, mais qui habitaient à l'étranger, qui étaient vraiment à la pointe de la recherche pour justement pouvoir nous transmettre un peu ce qu'on était censé apprendre, ce qu'on était censé acquérir comme compétences, pour pouvoir s'orienter vraiment vers la recherche en tant que métier.
L'étape suivante, c'est l'université?
Tout à fait.
Qui est une étape évidente?
Oui.
L'université, études générales en pharmacie, c'est la thématique qui répondait le plus à tes envies ou parce que le lien avec la pharmacie par rapport à ce que tu avais envie de travailler, il est évident pour toi? C'est un concours de circonstances? C'est une porte d'entrée obligatoire, entre guillemets? Je ne sais pas.
C'était, on peut dire, un peu de circonstances parce que pour rentrer à la fac en Iran, il y a un concours. Donc je passe un concours. Tous les élèves sont classés parce que, on va dire, les places dans les bonnes facs sont quand même peu nombreuses. Moi, je voulais absolument étudier à l'Université de Sciences Médicales de Téhéran. Et je visais médecine, école dentaire, pharmacie. J'ai pas eu médecine, j'ai pas eu école dentaire, j'ai eu pharmacie. Donc j'ai étudié pharmacie pendant 2 ans avant d'arrêter mes études en Iran et de venir en France pour me réorienter un peu scientifiquement, apprendre une nouvelle langue et découvrir toute une autre vie, on va dire ça comme ça.
Mais la langue de la science, c'est l'anglais et finalement c'est, j'allais dire, tant mieux entre guillemets, c'est-à-dire que je caricature un peu, on peut travailler n'importe où. À partir du moment où on maîtrise l'anglais, donc ça a été justement ce qui a permis de faire la jonction. Donc, Université de Lorraine, licence biologie cellulaire, donc effectivement, on réoriente un tout petit peu, on reste quand même bien dans sûr. La biologie en sens large, hein, on est bien d'accord. Ensuite, master ingénierie de bioproduction, ça y est, on arrive à cette notion de bioprocédé qu'on évoquait tout à l'heure. Pourquoi niveau master, enfin pourquoi continuer en fait? À ce moment-là, est-ce que tu sais que tu vas t'orienter dans la recherche, et donc c'est un peu la voie privilégiée, la voie évidente, on va dire, ou est-ce que tu te poses des questions, ce qui peut être le cas après avoir fait quand même plusieurs années d'études, en disant je me réoriente plutôt vers l'industrie, l'entreprise, quelque chose de plus concret, entre guillemets, ou en tout cas qui permet de rentrer dans une vie active plus rapidement. Tu te poses la question à ce moment-là, ou alors est-ce que tu sais que ta voie, elle est déjà toute tracée, que tu vas poursuivre?
Quand j'étais en L3 à l'Université de Lorraine, j'interrogeais beaucoup mes professeurs par rapport à leur domaine de travail. Il faut savoir, j'étais encore dans cette idée d'aller faire la recherche en neurosciences. Mais quand on parlait avec les professeurs, ils nous disaient « il n'y a pas beaucoup de place dans la recherche publique ». Les concours sont quand même très très durs, donc il faut avoir les compétences, le CV et beaucoup de chance pour pouvoir devenir enseignant-chercheur, ingénieur de recherche à l'université ou dans les centres de recherche qu'il y a en France. Donc essayez de vous laisser la porte vers le secteur privé. Et en échangeant avec mes professeurs, je me suis dit, il y a un domaine où je peux continuer à m'épanouir en étudiant les notions que j'aime bien. J'aime bien un peu de bio, j'aime bien un peu de mathématiques, j'aime bien un peu de tout, mais avec un cadre scientifique. Et ce cadre, c'était les bioprocédés, c'est-à-dire ça ralliait à la fois mon expérience en pharmacie de l'Iran, la biologie cellulaire que j'avais appris à l'Université de Lorraine, parce qu'on travaille encore une fois dans les bioprocédés, dans la bioproduction, on utilise les vecteurs biologiques, donc les cellules, les bactéries, etc. Et dans ce master, spécifiquement pour produire, par exemple, les anticorps monoclonaux, les vaccins, les cellules souches. Donc, comment est-ce que le design d'un procédé biologique se passe? Comment est-ce que ça se fait? Et c'est pour ça que j'ai trouvé cette formation très alignée avec ce que j'avais envie de faire, c'est-à-dire me laisser la porte ouverte à la fois vers la recherche publique, mais aussi d'avoir l'opportunité de m'orienter vers l'industrie. Et donc ce master me permettait de me spécialiser dans un domaine où ça c'était possible.
Tu parlais, enfin non, tes enseignants parlaient de faut avoir des compétences, faut avoir des opportunités, beaucoup de chance, faut avoir de la passion. On a un peu l'impression en t'écoutant que c'est ton moteur.
Bien sûr, bien sûr.
Sur ces sujets-là, et c'est primordial, donc, et ça t'a jamais lâché.
Bien sûr, bien sûr. Si on n'a pas la passion, à un moment donné, ça devient dur.
Et on va arriver à l'étape du doctorat, ce fameux doctorat en bioprocédé. On fait une petite pause, c'est Soroj Sami qui est l'invité de Biotine sur Graphite. On fait une petite pause musicale et on va continuer à écouter son parcours passionnant tout de suite sur l'antenne de Graphite.
I saw you standing there, and I asked you for a light. I slightly touched my hair, you looked as I hoped you might. I throw my head back as I laugh, I touch your arms, look into your eyes. We'll say some words that I'll forget, we both know they're mostly lies. suggest we get another round. But as the music swells, you take your chance to bending close as if to hear. But then you say, hey, magic words, do you want to get out of here? And I say, follow me, why don't you follow me down the street and then back to my. Robert thinks she's being bad, or that she's going straight to hell. And this is just a girl who wants, who's not afraid to help herself. Cause every boy she's ever known is just a peach and a sweet ass boy. So how could you hope to say no when you see him walking by? Then back to my house. Watch your step. I'm number one B. Come on in, and I'm sorry for the mess. Follow me. Why don't you follow me down the street and then back to my house.
Follow me, c'était Maya Vidal sur l'antenne de Graphite.
Jean-Noël Moreau, Biotine, sur Graphite.
Et pendant une heure, nous discutons, on est tellement bien dans le studio, avec Soroj Samy, qui est donc doctorant en bioprocédé à l'Université de Technologie de Compiègne. Je trouve toujours intéressant d'échanger avec des scientifiques aux sciences larges, parce que c'est toujours mieux comprendre pourquoi ils investissent énormément de temps sur des sujets scientifiques qui peuvent parfois être assez ardus. Il y a une passion derrière, et quand on écoute Soroj, on comprend très bien, on voit très bien quel jeune il était, en fait, quelque part. On arrive à tout de suite le comprendre, et quelque part aussi tout de suite l'envier, parce qu'on s'est dit, il a eu un parcours vraiment, vraiment passionnant. Et hop, d'un seul coup, je continue doctorat. Ben oui, parce que quand on fait des années d'études scientifiques et de recherches, on ne s'arrête plus. Et donc, la case doctorat semble évidente. Donc, doctorat à l'UTC, c'est le point de départ. C'est un sujet qui est proposé par un laboratoire de l'UTC.
Tout à fait. C'est le laboratoire Transformation intégrée de la matière renouvelable, TIMR. Et je fais partie de l'équipe MAB, donc Activité Microbienne et Bioprocédé.
C'est un sujet qui... Alors, quel est le sujet d'ailleurs, pardon ?
Bien sûr.
J'ai oublié quelque chose. Quel est le sujet ?
Donc, on travaille sur le biogaz, sur la production du biogaz. Donc, transformer la matière qui est des déchets organiques en un gaz de valeur qui est le biogaz, qui peut remplacer le gaz naturel avec lequel on rencontre pas mal de problèmes en ce moment avec justement la guerre au Moyen-Orient. C'est aussi un procédé qui permet de rendre notre environnement plus propre parce que ce qui rentre dans ce process, c'est des déchets que si on relargue dans l'environnement, ça sent pas bon, c'est pas joli et surtout ça pollue, ça peut infecter. Et ça génère aussi des gaz, du méthane, du CO2. Ce sont des gaz à effet de serre, assez toxiques aussi pour l'environnement. Donc, on est en train de transformer un problème en une solution pour l'industrie. Déjà, ce qui se passe actuellement avec ce biogaz, c'est d'utiliser, on va dire, sa vertu énergétique. Parce que dans le biogaz, on retrouve du méthane, comme dans le gaz naturel, qui est un gaz très riche en énergie, qu'on peut brûler pour chauffer les maisons, ou qu'on peut purifier, par exemple, pour faire rouler des bus. On voit de temps en temps des bus qui roulent au biométhane.
Oui.
Là, dans mon cadre, je fais partie d'un projet européen qui s'appelle Interreg Obi-Wan, comme le monsieur dans Star Wars. C'est un consortium de plusieurs partenaires académiques et industriels qui visent à aller bien au-delà de ce qui se passe actuellement dans l'industrie de la méthanisation. En fait, on veut monter un peu dans la chaîne de valeur en transformant ce biogaz en carburant pour avion, en kérosène. Il y a quand même un grand écart entre ces deux produits. Il faut savoir que le biogaz, c'est quand même un mélange de gaz pas très pur, pas très prévisible en termes de la production. Mais donc, à l'UTC, on travaille sur cette étape-là. On a des partenaires, par exemple, une société belge qui s'appelle Certec, qui travaille sur sa purification. À l'université de Gand, en Belgique, qui travaille sur l'extraction de l'hydrogène et du carbone solide de ce gaz. Et l'université de Lille, enfin le CNRS de Lille, qui travaille sur la synthèse de méthanol avec ce gaz. Méthanol, c'est une molécule plateforme, c'est-à-dire c'est une molécule qu'on peut vendre aux industriels pour que ça remplace le méthanol pétrosourcé. Méthanol, c'est un solvant qu'ils utilisent beaucoup. C'est une molécule qu'on peut utiliser pour fabriquer des polymères. Donc on peut enchaîner des petites unités de méthanol les unes après les autres pour faire des grosses chaînes carbonées qui vont devenir plein de produits plastiques qu'on retrouve dans la vie au quotidien. Donc on peut leur proposer un produit biosourcé cette fois-ci au lieu d'un produit pétrosourcé. Et l'objectif in fine sera, parce que il existe déjà une chaîne de valeur qui va du méthanol vers le kérosène. Donc l'objectif, c'est de remplacer ce méthanol avec un méthanol qui vient d'une source biologique. Parce qu'on est en train de... Enfin, l'objectif derrière, déjà, c'est l'autonomie. C'est-à-dire qu'on ne dépend plus d'un gaz qui peut être coupé du jour au lendemain à cause d'une guerre, la guerre de l'Ukraine, la guerre au Moyen-Orient. Et au-delà de ça, le gaz naturel qu'on extrait de la Terre et du nouveau carbone qu'on émet dans l'atmosphère. Ce carbone, il était tranquille dans la Terre, il faisait mal à personne, mais on l'extrait, on le met dans l'atmosphère, et là, il commence à chauffer notre environnement et à perturber un peu les motifs de, on va dire, des cycles d'eau, etc. Donc ça cause pas mal de problèmes pour nous actuellement avec le réchauffement climatique. Mais si on arrive à boucler ce cycle de carbone, c'est-à-dire je prends un déchet qui vient de ma vache, par exemple, si c'est du fumier ou qui est les restes de plats de la cantine, et avec ce déchet, je fais mon produit final. Mon produit final va relarguer du carbone si je le brûle. Donc le kérosène, ça va relarguer du carbone. Mais ce carbone-là sera recapté par les plantes qui seront remangées par les vaches qui vont refaire du fumier pour nous, et ce fumier qui va refaire du kérosène. Donc on boucle en fait ce cycle carbone et on propose un produit de valeur pour l'industriel, pour éventuellement qu'il passe à autre chose que le pétrosourcé.
Il y a une échéance qui est donnée. On comprend très bien l'idée.
Bien sûr.
Mais on se dit, c'est pour quand ?
Alors, le projet, il est financé sur 4 ans depuis l'année dernière. Donc, il prendra fin avec ma thèse en 2028. Et l'objectif dans ce cadre, on va dire plus scientifique, c'est vraiment d'aller explorer tout ce qu'il faut pour qu'on puisse enlever les verrous pour les industriels. Parce qu'il faut savoir qu'on est plus des partenaires académiques et industriels, en espérant qu'on puisse générer assez de connaissances pour que l'industrie puisse reprendre le relais après, pour, on va dire, mettre en valeur ses recherches et vraiment transformer ses connaissances du laboratoire en un produit de valeur pour l'industrie.
J'ai deux questions qui viennent, qui sont totalement différentes. Je vais garder, on va suivre le fil de la discussion et je reviendrai sur un autre sujet après. Tu travailles avec qui ? Tu travailles comment ? Tu travailles seul ? Tu travailles... voilà, comment... Concrètement, comment ça fonctionne ?
Du coup, il y a un petit stéréotype de la vie du doctorant qui est on est seul dans son coin du laboratoire au bureau en train de lire des articles. Ce qui est assez vrai, mais j'ai la chance, dans mon cas, j'ai la chance d'avoir 5 encadrants qui sont chacun spécialistes dans un sujet différent. Donc je suis encadré par docteur Xiao Jun Liu, qui est spécialiste plus sur justement les thématiques de procédés et sur la chimie. Professeur Thierry Ribeiro, qui est le microbiologiste de l'équipe. Docteur Stéphane Motley, mathématicien, qui me guide justement sur les modélisations scientifiques que je fais. On peut revenir sur, on va dire, les détails scientifiques du projet après. Docteur Laura André, enseignante-chercheuse à Uni-Lassalle Beauvais, qui est aussi spécialiste dans les procédés et la méthanisation. Et pour finir, Docteur André Post, donc professeur émérite de l'UTC, spécialiste sur les bioprocédés et surtout appliqué à l'environnement.
André Post, oui, grand nom de l'UTC, effectivement.
Bien sûr.
Donc là, on est à l'UTC. Est-ce qu'il y a des sujets de recherche similaires ailleurs ?
Bien sûr, cette recherche, par exemple, déjà en France, il y a quelques laboratoires qui travaillent sur la méthanisation pour répondre à des enjeux différents par rapport à ce projet. Par exemple, il y a un projet qui veut optimiser le processus de la méthanisation, donc de production de méthane avec les déchets, pour donner un engrais optimal. Parce qu'il faut savoir que ce qui reste dans le digesteur, après le procédé, on aura ce gaz qui sera sorti, qui sera le biogaz. Mais il y aura une partie, on va dire, liquide, solide, qui reste dans la cuve, qu'on appelle le digesteur. Cette partie liquide, solide est valorisable en tant qu'engrais. On peut l'ajouter au sol pour apporter des éléments nutritifs pour les plantes, ce qui se fait déjà dans le secteur agroalimentaire. Donc il y a un projet, par exemple, j'avais la chance de participer aux journées recherche et innovation biogaz et méthanisation à Nancy, qui avait lieu il y a 3 semaines. Et tu voyais des projets qui travaillaient sur l'optimisation pour l'engrais, parce qu'il y a justement des enjeux au niveau de l'engrais avec la guerre au Moyen-Orient, parce qu'ils n'arrivent pas à s'approvisionner. Tu peux avoir un projet pour aller vraiment plus dans le détail de la microbiologie de ce procédé. Il faut savoir qu'il y a des milliers de communautés microbiennes qui existent dans la cuve, qui coexistent dans la cuve pour pouvoir permettre cette transformation. Donc à Rennes, il y a un laboratoire qui travaille sur ce sujet. À Nancy, il y a un autre laboratoire. À Lyon, à Narbonne et partout dans le monde, c'est une thématique qui intéresse pas mal de scientifiques et d'industriels.
Concrètement, pour que les personnes qui nous écoutent s'imaginent dans ton bureau, entre guillemets, ou dans ton laboratoire plutôt, pardon, tu travailles avec quel matériel ? Est-ce que c'est, je ne sais pas, tu nous parles de cuve ou autre, donc on peut avoir l'image d'avoir du matériel assez de grande dimension, ou est-ce que c'est du travail sur ordinateur ? Voilà. Ton quotidien avec les outils, c'est quoi précisément ?
C'est une très bonne question. Je dirais que ma thèse, elle est conçue pour avoir lieu en 3 temps, les 3 ans. Donc la première année, c'est du bureau, c'est de l'ordi, c'est de la recherche bibliographique et de la modélisation. Donc je construis des modèles qui représentent ce qui se passe justement dans la cuve. Parce qu'on essaye de comprendre un peu la question au niveau du débit du biogaz qui sera généré en fonction des déchets différents, et aussi de sa composition. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on a des collègues qui s'intéressent à la purification de ce biogaz. Ils ont besoin de connaître justement à quel point il y aura des impuretés, quelles impuretés il y aura. Parce que c'est avec cette volonté de monter dans la chaîne de valeur, il y a aussi, on s'expose à plus de risques par rapport à une exploitation du biogaz qui sera tout simplement d'utiliser sa vertu énergétique. On peut tout simplement cramer, par exemple, des machines qui sont utilisées pour cette transformation en méthanol et autres. Donc, il faut que le gaz soit très pur. Pour assurer cette pureté, pour connaître déjà ces impuretés, je fais de la modélisation mathématique. Il y a un logiciel que j'utilise, donc il y a pas mal de codage pour représenter ces procédés. Et je lis le travail des autres scientifiques qui ont déjà travaillé beaucoup sur ce sujet.
C'est intéressant que tu évoques cela parce qu'on ne le conçoit pas en fait. La première partie, c'est avoir un état des connaissances, et donc identifier ce qu'il manque, identifier des pistes. Et travailler sur ordinateur.
Bien sûr.
C'est quelque chose, quand on parle de génie des procédés ou bioprocédés, et pas flagrant, en fait.
Bien sûr.
Donc, c'est un temps assez conséquent de ta thèse.
Bien sûr, bien sûr. Donc, c'est à peu près, on va dire, un tiers
temps
de la thèse qui est dédié justement à lire ce que les autres ont fait, essayer de les reproduire pour savoir ce qu'on peut en tirer dans notre modèle à nous, pour répondre à un enjeu qui n'a pas été assez exploré, on va dire, dans notre domaine. Donc après, j'ai un modèle dans mon ordinateur, on va dire la fin de la première année, d'ici septembre. Est-ce qu'on peut faire confiance à un modèle qui n'a jamais été testé ? Non. Donc j'ai besoin d'acquérir des données expérimentales, j'ai besoin d'aller confronter ce modèle avec un vrai digesteur où on met en fait justement des proportions différentes de déchets, on change en fait la quantité de temps que les déchets passent dans le digesteur pour voir à quel point mon modèle arrive à bien prédire ces fluctuations de production de biogaz, que ce soit le débit ou la composition avec avec les impuretés ou autres. Donc la deuxième année est conçue pour être expérimentale. Justement, la collaboration avec Unilassalle de Beauvais nous permet à ce que je puisse aller là-bas. On a une plateforme partagée avec Unilassalle de Beauvais où je pourrais mener des expériences pour calibrer et valider mon modèle, c'est-à-dire m'assurer que le modèle il fonctionne comme il faut. Donc l'année prochaine, ça sera des cuves, ça sera de la matière première de la méthanisation et ça va être plus, on va dire, ce qui est représenté par l'image du procédé.
D'accord. Et après la dernière année, si tout se passe bien ?
Si tout se passe bien, on aura un modèle bien calibré, bien validé, qui répond aux enjeux du projet. Et donc là, notre envie, c'est justement d'utiliser ce modèle et ces connaissances qu'on aura générées pour stabiliser ce procédé. On travaille avec des bactéries. Les bactéries, ça ne nous écoute pas trop. Donc notre objectif, c'est un peu d'améliorer les conditions au point où elles nous génèrent le biogaz comme il faut, c'est-à-dire pas trop de fluctuations, pas des impuretés imprévues. Et cela, malgré une variabilité au niveau de l'intrant. C'est-à-dire, dans le projet Interreg Obi-Wan, les déchets qu'on utilise sont les déchets des régions, c'est-à-dire Belgique et Hauts-de-France, parce que c'est un projet qui est financé par ces régions. Donc, si un jour on met de la paille et que demain l'agriculteur a du fumier à mettre dans sa cuve, on ne peut pas lui demander de changer ses déchets dans une mesure, on va dire, disproportionnée. Donc, il faut pouvoir stabiliser le procédé malgré la variabilité de l'intrant.
Mais ça, c'est un travail monstre, ça.
Du coup, là, ça passe par un troisième outil, autre que la modélisation, autre que l'expérimental, qu'on appelle contrôle-commande. Donc, tout simplement, on utilise des lois de commande qui, en se basant sur les données qu'on peut acquérir du digesteur, on va dire, change les conditions de travail des bactéries pour assurer cette stabilité.
D'accord, donc on essaye d'adapter un petit peu pour avoir le même résultat final.
Exactement.
Ah mais c'est un boulot monstre, ça en va un an. C'est très optimiste.
On va voir.
C'est très optimiste, mais pourquoi pas, effectivement. La finalité, c'est l'avion. Donc il y a les entreprises genre Airbus, tout ça, qui sont aussi proches, qui sont financeurs, je ne sais pas. Ils regardent ça de près, de loin, c'est l'avenir de l'aviation.
Malheureusement, on n'a pas d'entreprise dans l'aviation qui fait partie du comité industriel, mais on a des grandes entreprises du domaine de l'énergie qui sont impliquées dans le projet parce qu'ils trouvent ce projet très ambitieux et qui nous suivent et qu'on peut consulter une fois par an. On se réunit d'un côté les partenaires scientifiques et académiques qui faisons partie de ce projet et de l'autre côté les industriels qui nous interrogent sur les résultats qu'on aura générés pour savoir la pertinence de ce qu'on fait et aussi éventuellement investir sur la suite de ce projet.
Aujourd'hui, tu évoquais donc ce travail de recherche d'informations, d'état de l'art. Pour que les personnes qui nous écoutent comprennent bien cet état de l'art, ces connaissances, elles sont facilement accessibles, c'est sur Internet. Est-ce qu'on a accès à toutes les informations ? Est-ce qu'il y a de la rétention d'informations, des fois, de certains laboratoires dans certains pays ? Comment es-tu sûr de l'état des connaissances sur ce sujet-là aujourd'hui ?
J'ai la chance de travailler dans un domaine où l'information est quand même assez facile à accéder. Ce n'est pas le cas de tous les domaines. Il y a des domaines où secret défense, etc., empêchent un peu l'accès de l'information. Et il y a beaucoup de recherches qui ont déjà été faites par d'autres scientifiques. Les scientifiques, il faut savoir qu'on aime bien parler de ce qu'on fait, qu'on aime bien écrire ce qu'on fait. On écrit des papiers scientifiques, des dizaines de pages avec des formules, avec des résultats scientifiques. Donc, il n'y a pas trop de soucis au niveau d'avoir accès à ces informations.
D'accord.
Mais il faut avoir un avis critique sur les informations qu'on trouve au niveau de la pertinence par rapport à notre projet. Et bien évidemment, il y a des choses où il faut se poser la question. C'est-à-dire qu'on ne peut pas vraiment avoir confiance à 100% à un article scientifique en tant que scientifique. Donc il faut évaluer en permanence la méthodologie et la rigueur scientifique de ses collègues, d'autres laboratoires qui publient les recherches. Et donc ça fait partie aussi du travail.
C'est bien ce que tu évoques, parce qu'on évoque souvent dans cette émission des articles de presse vulgarisée, mais qui se basent sur la base d'articles de recherche scientifique dans des grandes revues. Et j'attire toujours l'attention que, sur certains sujets médicaux par exemple, une étude qui a porté sur une centaine de personnes pendant un an, une étude qui a été menée sur 200 000 personnes pendant 20 ans, c'est pas la même analyse par derrière. Donc c'est un petit peu cette idée-là, c'est-à-dire, donc là je suis très dans le médical bien sûr. Mais c'est l'idée d'avoir aussi un esprit critique qui fait que tout n'est pas totalement acquis au départ et que... Il y a peut-être quelque part même une frustration parce que ça freine peut-être. Enfin, je ne sais pas, je trouve que cette phase de recherche d'informations, qui est essentielle évidemment, elle est peut-être longue. Je ne sais pas, il n'y a pas une idée à un moment de « Ah, je veux rentrer dans le concret ».
Si, je comprends cette frustration. Mais je trouve qu'il est essentiel de se baser sur les bonnes informations avant d'avancer. Justement, bien comme sûr. Tu le dis, il y a des articles ou autres qui n'ont pas vraiment faire confiance. Donc, moi, je me dis, OK, ça prend beaucoup de temps de lire tous les articles pour trouver, ouais, là, il y a un petit problème, donc on ne peut pas utiliser leur méthode ou leur résultat. Mais au final, j'assure en fait la qualité du travail qui sera rendu avec cette phase de recherche d'informations. Donc oui, c'est frustrant, surtout quand on regarde l'état de l'art dans certains domaines ou un peu dans tous les domaines, mais ça fait partie du travail.
Soroj Sami, l'invité de Biotine. Vous écoutez Graphite 94.9 pour ceux qui nous écoutent sur la bande FM, notamment à l'UTC. Graphite.net pour ceux qui nous écoutent sur Internet. On fait une petite pause musicale et on va continuer à discuter avec Soroj. Vous l'écoutez, il a une vraie aisance pour parler de ces sujets et une envie aussi de partager. Il a participé à ma thèse en 180 secondes. Pourquoi il s'impose cela? Il y a un moment quand même, il va falloir nous expliquer. On écoute Soroj juste après Gruff Rhys sur l'antenne de Graphite. À tout de suite.
Join me here.
American Interior, c'était Groove Swiss sur l'antenne de Graphite.
Biotine, Jean-Noël Moreau.
J'aime bien quand je prends ma voix comme ça de vieux DJ de ces émissions de radio qu'on écoutait dans les années 80. C'était Groove Swiss sur l'antenne de Graphite. Ça m'arrive parfois, Sorge, de retrouver mon enfance quand j'écoutais ces radios à l'époque. Sorge Samy est notre invité aujourd'hui. On discute avec lui, on a discuté de son parcours, on a discuté de son sujet de thèse. Je me disais tout à l'heure, parce que tu es encore là pendant 2-3 ans à l'UTC, donc je me dis que si moi je suis encore dans 2-3 ans ici derrière le micro de Graphite, ça serait intéressant qu'on te retrouve pour que tu nous expliques un petit peu dans quelques années ce qu'il en est de cette histoire,
oui,
de ta thèse. Et en plus, tu as une particularité, c'est que tu as aussi une certaine appétence, une certaine envie, parce que tu as compris qu'il y a un véritable besoin de partager la science. Moi, c'est mon combat depuis plusieurs années, qui est que on se doit de susciter des vocations chez les jeunes, on se doit d'expliquer à la population au sens large ce que l'on fait dans les laboratoires de recherche, d'autant plus quand c'est des laboratoires de recherche publics, dans l'idée que c'est l'argent public, mais c'est dans l'idée aussi de faire participer le public, les citoyens, à des sujets assez essentiels. Là, on est sur des sujets quand même qui sont assez importants, parce que de façon sous-jacente, on parle de réchauffement climatique, enfin, c'est ce que tu as évoqué tout à l'heure, des transports du futur, effectivement. Donc c'est des sujets sur lesquels on se doit, enfin, chaque citoyen devrait avoir son avis à donner. La difficulté, c'est qu'on peut donner un avis à partir du moment où on a un minimum de socle de connaissances sur le sujet. Et c'est là que c'est un petit peu difficile, parce qu'on se rend compte que c'est la culture scientifique, elle n'est pas nécessairement encore bien bien répandue, notamment en France. Et donc il y a pas mal d'actions qui sont mises en place. La plus connue peut-être, à mon sens, c'est la Fête de la Science. On fait une émission de Biotine en direct de la Fête de la Science de l'UTC tous les ans, et on voit très très bien que le public est très demandeur de ce moment de rencontre. Toi, tu as participé à un autre événement qui a été retransmis il y a... Non, c'était la semaine dernière d'ailleurs, je suis perdu. Non, il y a 15 jours, c'était fin mars, c'était courant mars. Ma thèse en 180 secondes. L'exercice, il est simple. D'ailleurs, moi, le titre, au moins, il est clair. Expliquer mon sujet de thèse en 180 secondes. Et je rajoute toujours à ma grand-mère, c'est-à-dire à quelqu'un qui n'a pas nécessairement les connaissances pour comprendre. Il n'y a rien de plus frustrant pour les doctorantes et les doctorants de ne pas être en mesure d'être compris sur leur sujet de recherche par leurs proches, leurs familles, leurs amis ou autres. Tu as fait l'exercice que j'ai regardé et qu'on pourra revoir, bien sûr, sur la chaîne YouTube de Sorbonne Université Alliance.
Tout à fait.
Exercice difficile, mais exercice relevé avec brio par toi, parce que bravo de cet exercice-là. Comment on se prépare pour expliquer un sujet de thèse en 3 minutes? On réfléchit à des anecdotes, des métaphores, des images parlantes pour le public, et après on tire un petit peu vers le sujet, comme ça le lien il est fait. Comment tu t'es préparé?
Moi, je l'ai fait dans le sens inverse. Je me suis dit, il y a un certain nombre d'éléments essentiels à communiquer avec mon public. Je veux qu'ils comprennent ces 3 lignes-là. Par exemple, quand on en a parlé de la modélisation, de l'expérimental, du contrôle-commande et de la finalité de mon projet, je veux que ces éléments soient absolument transmis. Et je les structure. Ça fait le squelette de mon discours de 3 minutes. Donc, on n'a pas vraiment beaucoup de temps pour, pour élaborer assez de détails. Là, les métaphores, justement, les images interviennent parce que ça, c'est quand même très puissant utiliser la bonne image pour transmettre justement tout ce qu'on fait pendant les 3 ans. Dans les 3 minutes, donc comme tu l'as dit dans ma présentation, j'utilise quelques métaphores par-ci par-là pour pouvoir transmettre ces éléments essentiels dans le cadre du temps qui est imposé, parce que, bien évidemment, si tu parles plus que 3 minutes, t'es disqualifié.
3 minutes, c'est à la fois court, bien sûr. Ça peut être long, parce qu'il faut tenir la distance, il faut tenir une certaine énergie, une certaine prestance. Alors, toi, c'était parfait. Hein.
C'est gentil.
Là, je vous invite justement à regarder sur la chaîne YouTube, parce que c'est intéressant de voir l'exercice, et aussi, on apprend derrière plein de choses, parce qu'on se dit, on travaille sur ça, il y a beaucoup de sujets scientifiques qui sont abordés. On va dévoiler une partie, c'est toujours l'accroche qui est aussi importante quand on fait un exercice comme ça. Et quelle était ta première phrase ?
Ma première phrase, c'était « Je suis là pour vous parler de caca ».
Mais oui, mais finalement, c'est une belle accroche. J'allais dire une belle entrée en matière. Peut-être pas ce point-là, mais en tout cas, ça interpelle fatalement.
Bien sûr, bien sûr.
Parce qu'on va se dire « Mais qu'est-ce qu'il nous dit ?» Et oui. À partir du moment où on attire l'attention du public, c'est gagné. Après, il faut maintenir, faut capter et il faut captiver sur la durée. 3 minutes, ça peut être long, croyez-moi, chers amis auditeurs, 3 minutes, c'est très long quand on parle d'un sujet de thèse. Cet exercice avec le recul, il t'a appris quoi ?
J'avais le privilège d'être très bien accompagné justement par l'Alliance Sorbonne Université. On avait des formateurs qui nous ont très bien accompagnés, qui nous ont très bien formés sur les enjeux de la médiation scientifique. Notamment Alexandra qui était là pour animer la session de la finale de MT 180 de l'ASU. Donc, ce qui reste avec moi dans cet exercice, c'est comment structurer un discours pour que ça soit à la fois ludique, un peu pédagogique, mais aussi créer un lien avec le public en 3 minutes. Parce que t'as, dans la salle, dans l'amphithéâtre, t'as 200-300 personnes devant toi qui réagissent à ce que t'es en train de dire, qui te regardent, qui te jugent aussi. T'as un jury, t'as une sélection. Il faut savoir que sur les 12 personnes qui avons présenté, nous sommes 5 d'être sélectionnés pour aller à la finale de Paris qui aura lieu, enfin la ville de Paris, où il y aura l'Université de Technologie de Compiègne qui sera présente, mais aussi l'Alliance Sorbonne Université, Université Paris-Saclay et Paris-Cité.
Paris-Cité, oui, tout c'est pour chercher donc, toutes ces nouvelles universités de Paris. Donc tu passes à l'étape supérieure.
Tout à fait, voilà, avec deux autres personnes de l'UTC, donc j'en suis très très content qu'à l'UTC on soit si présent pour la finale, avec Marie Crémilieu de mon laboratoire et avec Bastien d'un autre laboratoire de l'UTC. On sera tous les trois présents pour parler pendant 3 minutes de nos thèses respectives, pour essayer d'attirer l'attention du public à la science, à la recherche.
C'est quand ?
Ça sera le 9 avril.
Ah bah donc c'est la semaine prochaine.
Tout à fait, c'est la semaine prochaine. Ça sera le 9 avril à Paris. Donc il est possible de suivre, on va dire, ces présentations en ligne sur YouTube. Je ne sais pas encore sur quelle chaîne sera diffusée ces présentations. Ça sera peut-être pas l'ASU, l'Alliance Sorbonne Université. Mais ce serait possible de suivre en direct ou après les présentations. Et c'est aussi possible de voter pour son candidat préféré. Si on aime une certaine présentation d'un certain représentant de sa ville, ça aide de donner un petit coup de main, parce que sur les 15 personnes qui seront présentes à la finale de Paris, il y en aura 3 qui seront sélectionnées pour aller à la finale nationale. Et une de ces 3 personnes sera choisie par le vote public.
Oh, alors vous avez compris le message, jamais auditrice, auditeur. Il va falloir qu'on vote donc la semaine prochaine. L'exercice de la médiation scientifique, l'une des grandes difficultés, c'est d'allier la forme et le fond, c'est-à-dire de trouver le bon support, la bonne accroche, le bon discours, tout en ayant une vérité scientifique, en fait. Parce que le piège, il est là. Hein. On peut raconter n'importe quoi avec des superbes choses, et on peut raconter des choses très sérieuses, scientifiquement véridiques, mais d'une façon totalement inappropriée et assez pénible. Donc l'équilibre, il est assez difficile à trouver. L'exercice de ma thèse en 180 secondes est un bon exercice pour cela. Ça te donne envie d'avoir une corde de plus à ton arc, parce que tu as déjà pas mal de passion, d'envie, d'expérience, d'activité. Tu as envie de poursuivre un petit peu dans cette piste-là, je ne sais pas, sous quelle forme ou autre. Déjà, commence à être à l'aise à la radio, donc je me dis que ça peut être une bonne piste, je ne sais pas. Est-ce que tu auras envie de continuer un petit peu à évoquer ce sur quoi tu travailles, envie de motiver les jeunes à faire des sciences ?
Tout à fait. Je trouve que c'est essentiel, comme tu l'as dit, de parler de la recherche qu'on fait au laboratoire avec le public qui nous finance. C'est essentiel. Il faut qu'ils sachent justement pourquoi on est là. D'autre part, j'ai la chance d'avoir trouvé ma passion. Et s'il y a 1% de possibilité, il y a quelqu'un dans les jeunes qui écoutent le discours de MT180 ou de cette radio ou autre, qui s'identifie et qui trouve leur passion dans ce que je suis en train de raconter, pour moi, ça serait vraiment le plus grand des plaisirs de pouvoir ouvrir cette porte à une autre personne qui pourra s'intéresser à la science, à la recherche et aussi au développement industriel. Et il y a aussi, on va dire, cette ambition personnelle. Pour moi, cette communication au grand public de ce qu'on fait au laboratoire, c'est un outil très, très puissant. Je suis très content de pouvoir représenter mon laboratoire, de pouvoir représenter l'UTC et Unilassalle Beauvais, et de pouvoir échanger, que ce soit sur la scène le 9 avril à Paris ou aujourd'hui sur ton antenne, avec d'éventuels futurs employeurs, par exemple, qui nous écoutent, qui sont peut-être intéressés par ces thématiques, ou d'autres personnes qui s'intéressent à ce qui se passe dans les laboratoires et qui se disent... Éventuellement, il faut faire un peu plus attention. Éventuellement, il faut suivre ces sujets scientifiques. Éventuellement, il faut aller travailler aussi dans la recherche.
J'ai aucun doute sur la réussite de ton avenir professionnel parce que tu as à la fois une passion, ce qui est un véritable moteur, et tu as aussi cette envie de partager cette passion parce que tu as très bien compris qu'il y a aussi un intérêt dans cet exercice-là. Donc je n'ai aucun doute sur la suite de ta carrière qu'on suivra avec attention. Comme tu as l'UTC, donc à côté des studios de graphite, je pense qu'on sera amené. On va attendre que tu avances et que tu ailles dans le concret quand tu seras un petit peu à la plateforme de la salle Beauvais. On en saura un petit peu plus, mais ça sera intéressant voilà, que l'on suive ton parcours et aussi pardon, de ton sujet de recherche, parce qu'on comprend très bien aussi les impacts qu'il peut y avoir au niveau de notre société au sens large. Et c'est tout l'intérêt justement d'échanger avec les enseignants-chercheurs, les doctorants sur leur sujet de thèse, parce qu'on comprend très bien qu'ils passent du temps sur quelque chose qui va avoir un impact concret sur notre quotidien assez récemment. Et au niveau de l'UTC, depuis plusieurs années, on a vu des choses qui ont eu un impact dans notre quotidien, bien évidemment. Donc c'est véritablement intéressant et important d'échanger avec vous toutes et vous tous. J'ai une mauvaise nouvelle, c'est déjà la fin de l'émission. Ça passe à une vitesse.
Mais t'as vu.
Mais non, mais j'ai même pas eu le temps d'évoquer l'éphéméride du jour que j'avais prévu. Bah tant pis, hein, ça sera la semaine prochaine. Mais c'était tellement. Mais ça, je le savais. Hein. Je me suis dit, de toute façon, j'ai prévenu en début d'émission, on allait se poser pendant une heure et on va pas voir le temps passer. Et on n'a pas vu le temps passer.
C'est vrai.
Parce que. Voilà, tu as déjà tu as une aisance et c'est tellement intéressant de t'écouter. Donc
c'est très gentil.
Il y a et puis pour moi, je dirais que c'est assez comment dire reposant entre guillemets parce que finalement voilà, quand on a quelqu'un qui sait ce qu'il veut dire, qu'il sait comment le dire, c'était un vrai plaisir d'avoir passé l'heure avec toi. On se retrouvera bientôt, je n'en doute pas. Peut-être à une fête de la science, tu vas peut-être faire un petit truc à la fête de la science.
Oui,
ah,
bah
alors on te retrouvera.
On va se retrouver là-bas.
On va se retrouver là-bas à la fête de la science. C'est la fin de cette émission que vous pouvez retrouver mardi prochain à 10h pour la rediffusion sur l'antenne de Graphite. Et puis de toute façon, comme toutes les émissions de Graphite et notamment les émissions de Biotine, vous avez les podcasts que vous pouvez retrouver sur le site internet graphite.net. On se retrouve samedi prochain pour une émission Biotine plus habituelle, mais comme j'avais envie de vous faire plaisir, on parlera des chatons la semaine prochaine. Ça s'appelle du teasing. Et c'est tout ça parce que les gens, ils vont quand même se dire, mais tiens, il va parler de chat, on va être là à l'écoute samedi prochain.
Tu fais très très bien.
Merci Soroche, à bientôt.
Merci à toi, bonne journée.
Merci, au revoir.
Au revoir.